Voilà, merci beaucoup de m'accueillir. Ouais, je me présente, donc Frédéric Defoy. Je suis là, je vais vous dire pourquoi je suis là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je fais de l'accompagnement, je suis membre du RESAM, hein, comme Christian. Ça fait autour de 15 ans que j'accompagne des responsables, des pasteurs, des missionnaires et puis tout public. J'ai également un cabinet sur Douvaine. Et cette question de la joie est une question qui est chère à mon cœur parce qu'en accompagnant à la fois des chrétiens, des non-chrétiens, des responsables, etc., j'ai vu comme la joie pouvait être considérée qu'un peu comme un luxe, en fait. Quelque chose qui est réservé à soit une élite, soit quelque chose de très éphémère. Et puis en creusant davantage, et puis en m'intéressant à ce sujet dans un programme aussi de doctorat, pour aller plus en profondeur à la fois sur le plan de la théologie, mais aussi de la psychologie, j'ai vu qu'il y avait vraiment un monde, en fait. C'était un thème transversal tout au long de l'écriture. Et puis que ça a été élevé au rang de commandement. Tu te réjouiras devant ton Dieu, ça c'est en Deutéronome, puis il y a un certain nombre de passages d'aujourd'hui, c'est aussi un impératif. Donc on est en face d'un impératif qui est censé nous réjouir. Il est bon que l'on nous ordonne de nous réjouir. Mais il y a quelque chose vraiment de spécial ici. Et alors, comme ça fait autour de 10 ans que je creuse ce sujet, on va dire que c'est une introduction. Hein, parce que j'ai tellement de choses à dire. Je vais d'ailleurs mettre mon chronomètre, parce que sinon, voilà, ça peut... voilà, hop. Alors, je voulais vous introduire ce thème à travers ce passage. En fait, c'est deux passages. Hein. C'est en Philippiens 3:1, il est déjà question de cet impératif. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis au chapitre 4, verset 4. Alors, je vais voir comment ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose que je voulais vous dire en présentation? Voilà, je pense que oui. Je voulais dire que si j'en suis arrivé sur ce thème, c'est parce qu'à la base, je m'intéressais à la question de la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ce pourquoi on est fait? Puis j'ai remarqué qu'il y avait très peu de matériel sur ce sujet, à la fois en théologie et puis en sciences humaines. Et puis en creusant, en faisant mon master dessus, j'ai vu que cette question de la vocation était reliée à la question de la connexion relationnelle. Et puis en allant un petit peu plus loin, et puis comme je vous disais, en accompagnant les responsables et les missionnaires et tout public, j'ai vu que quand une personne en fait perdait la joie, et bien, il y avait une réaction cascade d'un sentiment de déconnexion du relationnel, et puis après, eh bien, une confusion au niveau de la vocation et une difficulté à s'orienter, à ne plus savoir quoi faire et comment faire. Et donc, le remède semblait revenir à la joie comme porte, mais comme une porte qui, éventuellement, peut reconnecter et puis ensuite, qui peut repropulser dans ce pourquoi on est fait. Donc, je voulais juste mettre ce contexte-là. Il faut savoir que ce thème aussi, et on le verra, et merci, hein, d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse, merci pour d'avoir répondu à ce petit sondage. J'aime beaucoup en fait entendre ce que les uns et les autres, ce qui intéresse, ce qui préoccupe un public que je ne connais pas sur un sujet que j'aimerais apporter. Et donc merci pour cet éclairage. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je voulais vous demander si vous voulez bien partager avec votre voisin, lorsqu'il est question de la joie, c'est quoi l'image qui capture pour vous cette réalité de la joie? Si vous deviez illustrer la joie par une image ou par une métaphore, quelle image est-ce que vous utiliseriez? Et donc, je vous invite à parler à votre voisin, et puis ensuite, on aura un petit bouquet d'images avant d'aller plus en profondeur. Alors, je vous laisse parler avec votre voisin. Bien, alors pour vous, ça ressemble à quoi la voix? Alors. Voilà. Lumineux, ensoleillé, ok, oui, ouais, ok. Un sourire, ok. Ouais, bonne connexion, ok, ok, ça ressemble à de la connexion, ok. Ouais. Du partage, ok, oui. Le chant des oiseaux, ouais, chant des oiseaux, ok, ouais, ouais, ouais. Un bon repas, ouais, 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 ouais. Une force, ouais, une force motrice, ouais, merci beaucoup. Le printemps qui renaît, ok, ouais, ouais. Ne pas avoir honte, ouais, être connu, ne pas avoir honte, ouais. Oui, oui, une propriété de la joie, c'est que c'est contagieux, effectivement. Voilà, tout à fait. Oui. Autre chose? Ouais. C'est un événement aussi qui peut nous réjouir profondément. Ouais, ouais. Ok. Ok. Un enfant qui rit. Ouais, c'est une belle image aussi. Ouais, ouais. Oui, on voit comme la joie est plurielle. Hein. C'est d'ailleurs mon point après. Voilà. La joie, une réalité plurielle. Ça peut prendre plein de formes. D'ailleurs, j'ai pu mettre en évidence 5 types de joie, et chaque type est en fait un monde en soi. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on regarde le thème de la joie dans l'Écriture, voilà, il y a 700 versets dans l'Ancien Testament, avec plus d'une quarantaine de mots de joie différents. Et puis, en grec, il y a 326, et puis voilà, une dizaine de mots. Et quand on regarde dans les quarantaines de mots hébreux, il y a en fait 10 grandes racines qui correspondent vraiment bien avec aussi les mots grecs. Donc on voit que c'est effectivement une réalité plurielle, qui est extrêmement profonde, qui peut prendre plein de formes. Et puis, ce qui est magnifique avec les langues originales de l'Écriture, c'est que ça nous rappelle le comment. Nos Bibles sont traduites surtout avec un angle plutôt abstrait. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une lecture concrète, littérale et figurée aussi. Et dans les langues originales, eh bien, c'est inclus un peu tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais revenir aussi aux langues originales pour voir, pour récupérer le comment. Comment on vit la joie? Je vois que dans les milieux chrétiens, on sait que la joie est importante. Mais comment on fait? Comment on fait pour le vivre? Comme là, ce passage nous y invite. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On dit, mais c'est possible là? C'est possible? Et qui est toujours joyeux? Puis celui qui l'est, c'est pas un peu bizarre? C'est pas un peu bizarre? Donc une réalité plurielle, une réalité profonde. Et moi, je sais que quelque chose est important pour quelqu'un quand il y a beaucoup de mots pour le dire. Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de mots pour la pluie. Hein. On sait que c'est important pour eux. Voilà, on a plus d'une quarantaine de mots, une dizaine en grec. On sait que c'est important pour Dieu. Alors allons un peu plus loin. Oui, il faut que je pointe là-bas. Je pointe vers où? Voilà. Alors, qui aimerait lire le premier, ici, le premier passage, puis une autre personne lit le deuxième, si vous voulez bien.
Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Cela est salutaire.
Merci. Quelqu'un d'autre? Voilà. Le premier élément que je veux souligner, c'est la répétition. Et là, dans ce premier passage, on sait que Paul l'a déjà répété. Il ne se lasse pas de répéter. Alors, nous en France, alors je ne sais pas comment vous faites en Suisse, hein, mais en France, nous, on a une autre expression. Arrête de râler. ce qui peut vouloir dire un peu la même chose. Sauf que là, c'est positif. Mais vous imaginez si on s'encourageait comme ça ? Réjouissons-nous. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Moi, je dis ça à mes enfants. Mes enfants, ils me disent souvent ce qu'ils aimeraient avoir, ce qui manque. Et je dis, mais regarde ce que tu as. Réjouis-toi de ce que tu as. Et là, il y a Paul qui nous montre déjà un premier comment. De se le dire. De se le répéter. Sans se lasser. Réjouis-toi. Je préfère que arrête de râler. Réjouis-toi. Et effectivement, j'ai vu comme la joie peut être un peu tabou, comme si on n'était pas connecté avec les vraies réalités. Mais on le verra un peu plus tard, la relation entre la joie et les difficultés et les épreuves. Mais en tout cas, là, si on ne choisit pas la joie comme un point de focalisation, si on ne choisit pas la joie, si on ne choisit pas de se le dire, si on ne choisit pas de s'encourager, y a des forces qui nous tirent vers le bas. On les connaît, hein, ces forces. Donc on a besoin les uns des autres, et on a besoin de se le redire, et on a besoin d'en faire un point focal dans notre vie. Ça, c'est le premier point. Et là, je voulais vous... aller un petit peu plus profondément dans le mot qui est utilisé pour cette joie-là. On sait qu'il y en a d'autres, hein, mots de joie, qui couvrent d'autres dimensions. Mais celui-là, c'est, voilà, j'arrêtais. Et donc, ce type de joie se réfère, en fait, à une joie intérieure, donc personnelle. Donc, une joie intérieure, donc personnelle, mais ce qui est intéressant, mais qui est partagée. Parce qu'effectivement, hein, il y a des joies collectives, hein, où on va prendre une bonne louange, où on va se mettre, pour ceux qui aiment le sport, se mettre un bel événement sportif. Et puis, c'est ça qui va créer un engouement collectif. Là, c'est un peu différent. Là, c'est une joie personnelle, intérieure. C'est comme notre propre flamme, en fait. On apporte notre propre flamme. Et puis, les uns les autres, eh bien, connectons la flamme. Et puis ça fait un grand feu. Et ça parle en fait que chacun est responsable de l'apporter, cette flamme. Alors je circule hein, des fois dans le monde chrétien, et je vois qu'il y a des personnes qui ont des grosses flammes, et donc effectivement ils attirent. Et puis il y en a qui sont des consommateurs des flammes des autres. Mais là, l'idée, c'est qu'on est chacun responsable d'apporter sa flamme, même si elle est petite. C'est la joie personnelle, intérieure. Alors, d'où elle vient, cette joie ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir la racine de ce mot. Peut-être certains y reconnaîtront la racine charis, d'où vient le mot grâce. Donc, la joie intérieure et personnelle revient, est alimenté par la compréhension de la grâce. Que rien de ce qu'on peut faire ou ne pas faire peut changer quoi que ce soit à l'amour de Dieu pour nous. Que tout ce que Dieu a pour nous, il le donne par grâce. Et pour certains, c'est infiniment libérateur de simplement être accueilli tel. Voilà, qu'on soit accueilli tel qu'on est, vraiment. Mais pas seulement accueilli et toléré, mais on a été fait des fils et des filles, des co-héritiers de Christ. Nos consciences ont été purifiées, on est recouverts par sa justice et on peut vivre en nouveauté de vie. Et tout ça gratuitement. comment ça, ça captive en fait? Comment ça nourrit notre joie? La grâce. Vous savez, dans ma vie, j'ai été énormément intentionnel. Mais vraiment. Je lisais des livres chrétiens, j'ai beaucoup lu. Ça me faisait vibrer. Je voulais vivre en fait. Je voulais vivre vraiment tout ce qui était possible pour un chrétien de vivre. Je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, je ne sais pas me l'expliquer, mais j'étais quand même toujours un peu sur ma faim. Même 3 heures de prière et après je m'irrite contre quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et puis un jour, je suis venu dans ma chambre. Et j'ai dit, Dieu, je suis là. Je veux juste être avec toi et toi avec moi. Je ne peux rien faire pour mériter ta présence et ton amour. Rien. Tu connais mon cœur. Viens me rencontrer. Viens remplir ce vide qui est à la forme de Dieu. Parce que je te cherche. Ce n'était pas un ultimatum, hein, mais je lui ai dit, je ne vais pas partir de ma chambre. Tant que tu ne viens pas à ma rencontre, parce que j'ai besoin d'être rafraîchi. Dans sa grâce, il est venu. C'était comme quelque chose de vide et c'était juste quelque chose de plein. Et dès que c'était là, j'ai vu que c'était meilleur que ce que j'ai pu imaginer. C'est là que j'ai mieux compris la grâce. Mais il me le répète. Parce que moi, après je me dis, comment je fais en fait pour... Là, je suis dans une nouvelle phase. Je dis, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout fait. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de mots. Je dis, Dieu, accorde-moi ta faveur. Fais-moi grâce. Ta volonté, pas ma volonté. Et fais ce que tu veux. C'est la grâce qui nourrit la joie intérieure, personnelle, que ensuite je peux apporter à la joie des autres pour que d'autres puissent sentir cette chaleur. Moi, je rêve d'un feu de joie dans l'église. Alors là, si on va à la suite, hein, c'est « Réjouissez-vous ». Donc maintenant, on sait de quoi il s'agit. Et « Dans le Seigneur ». Alors dans le Seigneur, c'est « En curios ». Alors le mot « En », là, il est fantastique, hein, ce mot. C'est vraiment le mot qui veut dire qu'on est immergé dans quelque chose. Alors quand on réfléchit à la logique, hein, réjouissez-vous dans le Seigneur, dedans, immergé. Et donc là, dans cette dimension-là, hein, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de joie, mais là on est dans une joie intérieure, personnel, nourri par la grâce, mais qui est dans une logique relationnelle, la connexion relationnelle. En fait, ce n'est pas la grâce de simplement avoir reçu. Par exemple, on connecte souvent la grâce avec le pardon des péchés. Mais là, c'est la grâce de pouvoir venir en sa présence continuellement. C'est-à-dire que la porte de Dieu est toujours ouverte, en fait. Et ça, la grâce. La grâce n'est pas simplement de recevoir, la grâce est pouvoir être en lien, librement, soi-même, avec un Dieu qui nous dépasse. La connexion. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'on a dans le cerveau des circuits relationnels. Si ces circuits relationnels sont déconnectés, la connexion n'est pas possible. Et des fois, on peut être très déconnecté et on ne sait plus comment revenir. Mais ce qui est magnifique, c'est que ceux qui le sont connectés, c'est que ceux qui ont cette joie de connexion, ils ont rien à faire d'autre que d'être là, et par un effet de neurone miroir, eh bien, cerveau de ceux qui ne sont pas connectés, eh bien, ces circuits relationnels peuvent se reconnecter. C'est ce qu'on parlait de la contagion de la joie. Ça veut dire qu'on peut activer la joie de connexion chez les uns et les autres. Là, on parle en fait de cette joie relationnelle, cette connexion relationnelle qui en fait est une forme de véhicule. C'est quelque chose qui en fait qui circule, qui est dynamique. Et la première chose qui circule, c'est Jésus lui-même. Et du coup, ben voilà, ça fait référence à ça. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Alors, je n'ai pas voulu tout mettre le passage pour pas alourdir le temps, mais il y a demeurer en moi, demeurer dans mon amour, demeurer dans mes paroles, et puis vous demeurerez en moi si vous obéissez à mes commandements. Puis après, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Donc en fait, c'est la source, et cette joie de Jésus qui active la joie du croyant, alimentée par la grâce, et qui est là pour être partagée. Donc là, on n'a pas simplement l'effet de sa présence, on a le lien avec lui qui fait jaillir hein, cette palette-là. Dans la joie, il y a quelque chose d'infiniment vivant. On a parlé des images du vivant. Et donc, c'est ce vivant dans ce lien qui est aussi à la structure de tout ce qui existe. Hein. On appelle ça le principe d'interrelationnalité. Tout est connecté, en fait. Et si on se rappelle de ce verset que Dieu maintient toute chose par sa parole puissante, en fait, il est lui, en fait, le vecteur qui maintient tout. Si lui, il cesse d'être en connexion avec le réel s'évapore. Donc on a ça, voilà, cette joie de Jésus. Lui, il est connecté avec des réalités. Même Paul, quand il était connecté avec certaines de ces réalités-là, il disait, les paroles ne peuvent pas l'exprimer. Et cette connexion, en fait, avec Jésus, qui est connecté avec des réalités qui nous dépassent, en fait, eh ben, il nous transmet dans la joie quelque chose même de plus, en fait. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelque chose qui transcende, en fait, ce ici et maintenant. Et qui alimente ce feu. C'est là qu'on comprend, hein. Dans le Seigneur. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc, le comment de cette joie-là, c'est être proche de Jésus, être proche de sa parole et de faire ce que la parole dit. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui vient du cœur de Dieu lui-même. C'est profond, hein ? Ça, c'est qu'une dimension d'un énorme festin. Alors maintenant, toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Alors, littéralement en grec, ça veut dire « à tout moment ». Donc, toujours. À tout moment. Alors, c'est pour ça que je voulais vous proposer une redéfinition de la joie. Parce que le principal retour que j'ai quand on parle de la joie, c'est que c'est éphémère. Et qu'on ne peut pas forcément la capter, on ne peut pas forcément même des fois l'anticiper, et que c'est très contextuel. Donc ça, c'est la vision commune. Là, avec ce qu'on vient de dire, on sait qu'il y a autre chose. Mais là, à tout moment, en fait là, c'est la principale des objections que je rencontre. Hein. Mais comment c'est possible ? Toujours. Il faudrait que le monde soit parfait. Mais cette parole, elle nous est dit. Elle est placée dans l'Écriture et on voit bien que dans l'Écriture, il ne nous est pas présenté un monde parfait non plus. C'est-à-dire que l'Écriture nous est donnée pour qu'on vive dans ce monde qui a été marqué par la chute. Et donc, je voudrais vous proposer une définition de la joie qui n'est pas simplement une émotion. Parce qu'une émotion, évidemment, on ne peut pas forcément les contrôler. Mais que c'est plutôt une vertu. Une vertu, je vais vous redéfinir ce que c'est. Donc une vertu, alors je vais vous apporter une définition un peu technique, puis après on va la décortiquer simplement. Est-ce que ça marche ? Je vous laisse. Voilà. Une vertu, c'est une habitude psychologique qui est composée de caractéristiques adaptatives, vous avez bien fait de venir, alimentée par une identité narrative transcendante. Vous avez vraiment bien fait de venir. Hein. Mais en fait, voilà. Il n'y a pas de pointeur aussi. Si, il y a un pointeur. Ah oui, il y a un pointeur, excellent. Voilà. Donc, une habitude psychologique, bon, voilà, c'est juste une habitude de fonctionnement, hein, on va dire. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple du courage. Le courage, ceux qui sont courageux, ben, on voit que c'est une habitude, c'est-à-dire que la personne, elle reste en mode courage. Hein. Des fois, le courage est en veille, parce qu'il n'y en a pas besoin, mais c'est toujours un petit peu là, accessible. Donc, je prends l'exemple du courage, et après, on fera la transposition avec la joie. Alors, composé de caractéristiques adaptatives. Alors, caractéristiques adaptatives, c'est juste qu'on peut s'adapter autour. C'est-à-dire que cette habitude psychologique a développé certaines caractéristiques qui peuvent s'adapter à plein de différentes situations. Quand quelqu'un est courageux, il n'est pas courageux que pour, je sais pas, un type de tâche. Le courage va prendre plusieurs formes selon ce qui se passe. Et donc cela est alimenté par une identité narrative transcendante. Alors, identité narrative, c'est... Alors, je vais décomposer identité narrative et identité narrative transcendante. L'identité narrative, c'est simplement comment je me raconte dans mon histoire. C'est quoi mon histoire ? Quand vous parlez de vous-même, vous racontez quoi de vous ? C'est quoi mon histoire ? Alors, si je prends encore le courage, à l'époque du Moyen-Âge, voilà, on racontait des histoires aux enfants de courage, etc. Et puis, voilà, l'enfant se projette comme chevalier. Voilà. Je veux être chevalier. Donc là, il commence à raconter son histoire à travers cette vertu. Alors, identité narrative transcendante, c'est la grande histoire. C'est comment mon histoire s'insère dans la grande histoire de Dieu. Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que quand vous parlez de vous, vous parlez de vous-même dans le cadre de la grande histoire de Dieu ? Ou que c'est juste quelque chose d'à part, là, qu'un dogme ou quelque chose ? Est-ce que c'est... Non, je fais partie de la grande histoire de Dieu. Et vous avez vu, rien que de le dire comme ça, je fais partie de la grande histoire de Dieu. Déjà, là, la joie n'est pas loin, hein. Comment c'est possible ? Je fais partie de la grande histoire de Dieu et j'ai un rôle dans son histoire. Ah, là, on entend vocation. Et donc, quand on sait que notre histoire s'inscrit dans un projet qui a été pensé de toute éternité et qui nous a inclus, eh bien cela... développe ensuite cette habitude psychologique qui est composée de caractéristiques adaptatives où la joie prend plein de différentes formes et que ça devient une disposition installée. C'est comme ça que ça peut devenir toujours. Mais la grande question, c'est comment, en fait, on a internalisé dans le siège de notre identité la grande histoire de Dieu. Parce que la grande histoire de Dieu, c'est quelque chose là-bas, auquel je dois me raccrocher, où l'histoire de Dieu, c'est quelque chose dans lequel je suis né. Il m'a fait renaître dans son royaume, dans son histoire. La nouvelle naissance, c'est repartir à partir de son histoire, de son projet. Mais je peux vous dire une chose, je peux vous promettre une chose, la joie durable est impossible si ce n'est pas internalisé dans le siège de notre identité. Vous savez, je fais de la recherche en fait hein, sur la joie. Je fais de la recherche. Et donc, j'étudie des modèles de joie. Des personnes qui expriment une joie hors norme. Puis j'étudie ce qui se passe dans leur cerveau. Et je vais vous dire, donc, je vais chercher ce que j'appelle les messages sources. Les messages sources de joie, c'est justement le message qui est internalisé et qui produit de la joie. Et je vais vous dire le message d'une personne. Elle, son niveau de joie, sur une échelle de 1 à 10, elle était à 10. Et sur une échelle de variation, c'était à 1. C'est-à-dire c'est une joie à 10 qui ne varie jamais. On va dire, je suis content de t'avoir rencontré, du coup. On va essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu crois qui alimente cette joie constante? Et elle me dit ça. Donc elle est singapourienne, elle vit au Canada. Et elle dit, donc c'est en anglais, donc je dois traduire, que elle sait, donc ça commence par « je sais », que Dieu est le plus glorifié et satisfait quand je suis simplement qui je suis en lui. Elle se réveille tous les jours avec ce message. Joie, 10, qui ne varie jamais. Elle a internalisé le regard de Dieu sur elle. Ça se voit, hein? Quand on internalise le regard de Dieu sur nous, ça se voit. On n'a pas envie de faire la tête aux autres après. On a envie de regarder les autres. On a envie de leur dire, je vais te regarder avec le regard qui est sur moi. C'est comme ça qu'on sait que la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement un dogme externe, mais qu'on se l'est approprié, que c'est une relation. Donc ça, c'était la minute technique. Alors pour finir, hein, parce que je regarde l'heure, ouais, pas mal. Pour finir, vous avez vu, j'ai enlevé le « et », la joie et l'épreuve. J'ai remplacé par la joie dans l'épreuve. Parce que là, en fait, Philippiens, c'est la lettre où il y a énormément de mentions de joie. Et en fait, dans cette lettre, le contexte est difficile. Déjà, il y a Paul qui est emprisonné. Il écrit en fait à l'église de Philippe, qui est une colonie romaine. Donc c'est une colonie romaine. Et puis il y a des différences de citoyenneté et l'impact que ça a avec les Romains, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Et là, il y a des disputes. Il y a des chrétiens de second rang. Il y a un certain nombre de complexités, et donc j'ai voulu un peu que vous le nommez. Voilà. Un risque de mort hein, pour Paul, Épaphrodite. Il y a donc sa captivité hein, qui est là. Il espère être délivré bientôt, mais il ne sait pas encore. Il a bon espoir. Hein. Il se dit, je préférerais avec le Seigneur, mais bon, je crois que Dieu il va me laisser là pour continuer à contribuer à votre joie dans la foi. Joie dans la foi. On note hein, pour plus tard. Il y a de la fatigue, de la faiblesse physique. Il y a des tensions internes. Il y a des oppositions externes. Les oppositions externes, pas simples, hein. Il y a des ennemis acharnés qui viennent mettre la pression sur cette église qui est déjà un peu fragilisée à cause des différences de statut. Donc là, quand on en parle comme ça, hein, ça a l'air d'être. On a vu des films beaucoup plus intenses. Hein. Mais en fait, hein, si on le vivait ça, ce serait un contexte difficile. Alors, je voulais juste, pour appuyer ce point, que les personnes les plus joyeuses que j'ai rencontrées sont des personnes qui font le travail le plus dur. J'ai été en contact avec une organisation qui s'appelle International Justice Mission. Et eux, ils luttent contre le trafic humain dans plus de 40 pays. Ils ont commencé à 5. Et maintenant, ils sont dans 40 pays. Et ils luttent contre la pauvreté qui amène à l'esclavagisme moderne. Et eux, donc, j'étais en contact avec le responsable de la formation spirituelle, il me disait, sans joie, on ne peut pas survivre à ce ministère. Sans joie, les personnes que l'on délivre ne peuvent pas se remettre non plus facilement. Et si on généralise et qu'on revient au concept de vocation, quand Dieu nous appelle, il nous envoie en général où ? Là où il y a des ténèbres. C'est ça que j'ai vu avec les pasteurs et les missionnaires que j'ai pu accompagner. Ils sont envoyés là où c'est difficile. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu missionnel qui vient chercher les gens, là où ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Mais là, il y avait un dilemme. Si on est envoyé dans un espace difficile pour aimer de la part de Dieu et que cet espace difficile nous déconnecte, saborde notre joie et neutralise notre équipement de vocation. Bon, on ne sert plus à rien. Donc pour pouvoir être vraiment missionnel, pour pouvoir vraiment être des envoyés, pour pouvoir vraiment rayonner, il faut savoir rester joyeusement connecté, même quand c'est difficile. Sinon, ça ne sert à rien. D'où le « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours ». Parce que sinon, cet ordre de mission « Allez, faites de toutes les nations des disciples » devient impossible. D'où la nécessité de mettre en évidence 40 compétences de joie rares. Rares, ça veut dire en situation difficile. Mais pourquoi est-ce qu'on peut, et là je vais finir avec ça, puis après il y a un petit temps de questions. C'est que là on est en train de dire que puisque c'est un commandement, et puisque c'est une vertu, et puisque c'est relié à une réalité que Jésus a ouverte, c'est-à-dire la connexion avec lui. Ça veut dire en fait qu'on peut apprendre la joie. On peut apprendre des compétences de joie. Je vais vous dire juste le témoignage d'une femme, et puis après je vous laisse à la dernière étape. Elle vivait dans son mariage quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On a l'impression que c'était une impasse. Puis elle disait, voilà, on est chrétien, on veut glorifier Dieu. Voilà. Elle avait développé une compétence. Quand elle se couchait, elle se mettait sur son oreiller et elle faisait ça. Il ne faut pas sous-estimer cette compétence. Sourire, vous savez qu'il faut, on contracte moins de muscles quand on sourit que quand on ne sourit pas. À l'époque, les acteurs, on leur faisait revivre des mémoires pour qu'ils puissent ressentir des trucs. Aujourd'hui, on leur dit non, si vous contractez certains muscles, ça va réactiver l'émotion. Je voulais juste vous donner ce petit témoignage, parce qu'en fait, il y a des compétences qui sont faciles. Comment, quand on entre dans la famille de Dieu, quelle tête on fait les uns aux autres ? Quelle posture on a ? Quel regard on fait ? On est ouvert, on est fermé ? On regarde comment ? On sourit comment ? Est-ce qu'on dit « je ne suis pas content » ou est-ce qu'on dit « tiens, je suis ouvert à un dialogue parce que Dieu m'a touché ?» Donc la joie, ça s'apprend. Il y a tellement d'autres choses à dire, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la joie aussi, c'est notre cerveau est fait pour la joie. L'exemple, c'est que si on donne de la joie de connexion à un bébé, tout marche mieux. tout se développe mieux. C'est pareil pour un adulte, hein, d'ailleurs. Dans la connexion joyeuse, tout notre système se met à re-bien fonctionner. Toutes les hormones naturelles se redéclenchent. Et spirituellement, il y a des choses qui souffrent. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Et j'avais aussi proposé un temps de questions. Si jamais il y a des choses qui vous ont interpellé, si vous avez... sachez que moi, j'aime beaucoup les objections. Donc, si vous avez des objections ou des commentaires ou des questions, vous voulez juste avoir juste un tout petit moment, si jamais. Oui. 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 Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit peu une question spéciale parce qu'il faudrait être dans Jésus pour le savoir. Mais Jésus, effectivement, lui, il est. On sait d'où elle vient de sa joie. Elle vient de la connexion avec le Père. Elle vient d'où d'autre aussi. Là, il y a un autre passage en Luc où Jésus est soudainement pris par la joie et il est dit « Exulte de joie par la puissance du Saint-Esprit » et il s'exclame « Je te loue, ô Père !» Et ce passage-là parle d'un renversement des équilibres du pouvoir. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Et je voyais Satan qui tombait du ciel comme l'éclair. Et là, dans la joie de Jésus, il y a aussi cette victoire contre le mal. Contre tout ce qui a brisé, en fait, cette unité entre Dieu et sa création. Mais là, la joie de Jésus, elle est encore autre. Là, c'est juste des choses qu'on a. Mais effectivement, il nous partage des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas imaginer. Mais qui viennent, en fait, de ce qu'est la vie et la vie véritable. La vie abondante qui prend sa source dans le cœur du Père et qui ne peut s'arrêter, qui ne peut plus jamais être ternie, être souillée. C'est pour ça qu'Apocalypse, en fait, c'est un livre finalement très joyeux, malgré tout. Parce que c'est enfin un retour, pas à l'état d'avant, mais à une nouvelle réalité qui a été même enrichie par tout ce qu'on est en train de vivre là. Mais je trouve ça beau que Jésus nous partage sa propre joie à lui. Et même il a dit ça hein, dans Jean 15, c'est la veille de sa crucifixion. Et là il dit que sa joie est complète. Et là il nous prouve que la joie dans l'épreuve, la joie permet de traverser l'épreuve. Et comment on le sait? J'extrapole un tout petit peu plus par rapport à la réponse à la question, mais c'est qu'on sait qu'on reste connecté joyeusement quand on est dans l'épreuve. Il y a trois choses qui se passent. On reste fidèle à nous-mêmes. Quand Jésus est sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On voit, il est fidèle à lui-même. On reste fidèle à nos alliances terrestres. Quand Jésus dit « Jean, voici ta mère, Marie, voici ton fils », là, il est fidèle à ses alliances terrestres. Puis quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il est fidèle aussi au Père. Et il y a trop de personnes en fait, qui sont déconnectées, qui font des choses qui ne leur ressemblent pas, ou qui font violence dans les relations humaines, et qui aussi font violence à l'alliance avec Dieu. Donc que Jésus qui a triomphé, nous partage sa joie, ça a la capacité de nous faire traverser en réalité les plus grandes épreuves. Vraiment. Ça répond à la question quand même ? Ouais. Autre chose ? Oui ? En premier toi, puis ensuite, ensuite madame, c'est OK ? OK. Oui ? Oui. Alors là, ça touche à une réalité, c'est la réalité du pneuma, donc c'est-à-dire de l'esprit. Et c'est vrai que, alors si je prends un exemple de ce que font les esprits mauvais, dans les évangiles, on voit que des esprits mauvais ont pu remplir un troupeau de porcs. Donc, en fait, on a un corps, on a une dimension psychique, donc ça c'est la régulation de la vie avec un petit v, puis on a une dimension du pneuma. Et cette dimension du pneuma, en fait, elle fonctionne un peu autrement et elle est faite pour de l'association, pour de la communion. Donc ça veut dire que au niveau du pneuma, donc au niveau de la communion de l'esprit, on a pneuma, c'est esprit. Pneuma, c'est le mot grec pour esprit. Voilà, souffle, voilà. Souffle, voilà, exactement. Et donc là, on peut se connecter en fait au pneuma de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et là, il y a une intégration, mais qui n'est pas un anéantissement de notre esprit. C'est en fait lui, il sait en fait comment être connecté à nous pour nous transformer Dieu de l'intérieur. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc c'est la présence de Jésus qui est dans notre centre. Hein. Il vient habiter pas en périphérie de nous-mêmes, il vient habiter dans notre cœur profond, dans notre être authentique. Il va transformer là en façonnant le caractère de Jésus, le caractère de Dieu dans notre propre centre. Ça va faire jaillir un fruit. Mais c'est vrai que là, on est dans une espèce de communion. J'en viens à Dieu. Moi. Alors, malgré que Jésus s'est laissé transformer, parce qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père avec un corps humain glorifié. Il n'est pas comme avant l'incarnation, où il n'était que esprit. Là, il est assis à la droite du Père, encore avec un corps humain glorifié. C'est pour ça qu'on l'appelle le nouvel Adam, parce qu'il représente, vous vous rendez compte, il représente le genre humain dans la réalité céleste. Il a un corps humain glorifié. Mais oui, on parle à des réalités de communion, et c'est une communion qui est différente que la communion que nous, on peut partager, mais qui est encore plus profonde. Oui, madame. Oui, alors ça, c'est une magnifique question. Magnifique question. Là, Jésus, en fait, il y a quelque chose qui active la joie, c'est aussi la joie par anticipation. Par exemple, hein, si moi je dis à mon fils, demain, on va à Disneyland. Ouais, on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. Mais effectivement, l'espérance, c'est envisager la victoire. Envisager un changement, un point de bascule. Il y a plusieurs peuples hein, dans l'histoire. Le peuple juif, le peuple africain-américain aussi, et d'autres peuples qui, pendant un long moment, proclamaient même des chants de joie. Pas parce que ça avait changé, mais parce qu'il croyait que ça allait changer. Et la joie par anticipation, donc nourrie par l'espoir, est extrêmement puissante. Il y a un passage qui dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Donc en plus, là, il est question d'une autre joie au ciel. La joie de la résurrection. La joie de l'ascension, de la glorification. Il avait ça en tête. Donc effectivement, l'espérance est une dimension de la joie qui va s'ajouter à la réalité de sa présence et la réalité de la connexion et la réalité du pardon des péchés, etc. Donc effectivement, hein, avec tous les types de joie que Dieu a pour nous, on est équipé pour traverser les épreuves de cette vie. Ça répond à quelque chose ? Okay. Une dernière question peut-être ? Il est 50 minutes comme on avait prévu. Oui ? Ouais. Non, oui, c'est une bonne question. Moi, je dirais que le bonheur, alors, dans, dans le matériel qu'on trouve et en philosophie, et en psychologie, et moins en théologie. Mais il y a, c'est, le bonheur peut être très contextuel. C'est, je vis un moment de bonheur, quoi. Alors moi, je dirais que le vrai bonheur, c'est la qualité et la fréquence de la joie que l'on vit, en fait, au quotidien. Je pense à Jacob, là, qui, lui, à la fin de sa vie, a dit, voilà, la vie était difficile. Il a été en lutte, en fait. Et, mais effectivement, quand on arrive à mettre ce que j'appelle des routines de la joie. Les routines de la joie, c'est je fais des choses exprès pour justement nourrir de cette joie. Non mais sans rire. Sans rire, un jour où j'étais vraiment dans un deuil vraiment profond, j'avais étudié toutes ces choses et ça ne me servait plus à rien. J'étais en deuil. Il faudrait que je vous parle des substituts à la joie qui anesthésient tous les mécanismes de la joie. Donc, ce qui fait que ça donne l'illusion de la joie, mais après on a des crashs. Enfin bref, c'est... Donc moi là, j'étais dans un deuil. Dieu m'a montré un substitut de la joie que j'ai dû arrêter, donc j'ai arrêté. Puis 6 mois plus tard, j'étais un peu misérable. Puis un matin, je me dis, allez, tous mes trucs préférés avec Dieu, je vais le faire. Donc, il y avait plusieurs choses. Je l'ai fait. Et là, explosion de joie. J'étais dans un deuil important. Un quart d'heure plus tard, je rentre, parce que mon bureau était à 3 minutes de chez moi. Je rentre, ma femme et moi, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des mois que je t'ai pas vu comme ça. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est réactivé là. Si je ne l'avais pas fait, ce ne serait pas réactivé comme ça. Mais j'ai été mûr pour cette routine. Le lendemain, je me réveille, je ressens le deuil. Ma femme me dit, va faire tes routines là, parce que tu me fatigues un peu. J'y vais, je le refais. Alors, par contre, c'était sophistiqué. Il y avait ça, 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 il y avait ça. Il y avait au moins 7 choses. Puis avec le temps, de le refaire, et puis ça s'est transformé en autre chose. Mais c'est pour dire qu'on peut structurer sa vie en fonction de choses qui vont nous alimenter, qui vont nous reconnecter, qui vont nous réancrer dans les réalités qui ne meurent jamais. Laissez-moi conclure par une courte prière. Merci de tout cœur, Seigneur, pour cette réalité de la joie qui peut être en toi et qui peut durer, qui peut être vécue à tout moment. C'est une réalité qui nous oblige, en fait, à venir à toi tel qu'on est pour expérimenter la grâce, le fait que tu nous accueilles dans la réalité de qui on est, pour nous donner une vie nouvelle, pour remporter la victoire sur le mal qu'on a commis, le mal qu'on commet, le mal qu'on nous a fait, par le pardon qu'on reçoit, le pardon qu'on donne. Merci de tout cœur pour ces réalités. Là, on a touché une toute petite partie. Il y a encore 50 dimensions. Des fois, on se satisfait de quelques miettes, mais permets-nous, en ayant retouché du doigt ces réalités, de venir à toi encore et encore pour vivre toute la plénitude de la joie que tu as pour nous. Parce que si on veut être porteur de la bonne nouvelle avec une tête fermée, ça ne va pas ensemble, qu'on puisse être alimenté par cette joie de connexion qui va nous être la force de notre vocation, pour étendre ton royaume par l'amour. Et c'est au nom de Christ qu'on te le demande. Amen.